de Matthieu chapitre 4 et chapitre 5 pendant un certain temps. Vous me permettrez de rappeler ce que nous avons déjà dit il y a quelque temps et d'ajouter quelque chose. On ne va pas terminer, on y reviendra, mais nous voulons vraiment que cette parole s'assoie dans nos cœurs. Alléluia. Marc chapitre 4. Non, j'ai dit Marc. Si j'ai dit Matthieu, alors je me suis trompé. Marc, prénom, c'est Marc. On peut le lire dans Matthieu, mais ce que Matthieu a été très bref par rapport à ce récit. Alors je préfère, c'est le même texte également dans Luc, mais nous avons pris la version de l'évangéliste Marc, chapitre 4, et nous lirons à partir du verset 35. Vous me permettrez ce matin de prêcher calmement. Alléluia. Marc chapitre 4 à partir du verset 35. Pendant que vous cherchez, je voudrais que nous puissions accueillir nos bien-aimés frères et sœurs qui sont venus du nord de la France, de Roubaix, même si parfois je dis Lille, mais qu'importe, Roubaix, Lille, Tourcoing, tout ça, tourné, c'est à peu près la même région. Alléluia! Nous voulons accueillir notre frère Serge, qu'il se lève, le docteur Serge, pour que nous puissions l'accueillir au milieu de nous. Alléluia! Vous le connaissez très bien, il est venu avec notre frère Roger. Jamila n'est pas là ce matin. Alléluia! Et notre sœur Marie-Josée, qu'elle se lève aussi. Alléluia! Épouse du docteur Serge, et notre sœur, j'ai encore oublié le nom. Rappelle-moi encore. Pardon? Lindy, lève-toi Lindy, comme ça on peut aussi t'accueillir au milieu de nous. Alléluia! Ce sont nos bien-aimés, vous avez déjà eu l'occasion de les voir à plusieurs reprises. Ils viennent de Roubaix, ils ont une église là-bas, nous nous sommes déjà rendus plusieurs fois. Je crois que c'est lors d'une de ces visites que notre frère qui n'est pas là, Julien, a rencontré son épouse Tania, alléluia, et ils se sont mariés, ils sont heureux, ils auront une grande, comment on dit, une longue vie avec beaucoup d'enfants, alléluia. Ils sont venus parce qu'ils sont en train de préparer un séminaire l'année prochaine au mois de mars, et ils doivent finaliser avec moi les dispositions parce que je serai avec certainement le docteur, l'un des orateurs principaux de ce, je ne sais pas combien de temps ça va prendre, 2 ou 3 jours, je crois 2 jours. Et donc, ceux qui voudront bien venir pourront toujours venir, alléluia, pour être à ce séminaire. Que Dieu soit loué, nous sommes bénis de votre présence, que le Seigneur vraiment vous rende au centuple. Nous savons que les préparatifs ne sont pas toujours faciles, mais Dieu vous aidera. Amen. Marc chapitre 4. À partir du verset 35. Ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit, passons sur l'autre bord. Après avoir envoyé la foule, ils l'emmenèrent dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il s'éleva un grand tourbillon et les flots se jetaient dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait à la poupe sur le coussin. Ils le réveillèrent et lui dirent, « Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons ?» S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, « Silence, tais-toi !» Et le vent cessa, et il eut un grand calme. Puis il leur dit, « Pourquoi avez-vous si peur? Comment n'avez-vous point de foi ?» Ils furent saisis d'une grande frayeur, et ils se dirent les uns aux autres, « Quel est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer ?» Et c'est chapitre 5. Ils arrivèrent sur l'autre bord. Ils arrivèrent sur l'autre bord. C'est merveilleux déjà. Alléluia. Jésus leur avait dit, « Passons de l'autre côté. » Et il y a eu la tempête qui a fait tout pour qu'ils n'arrivent pas de l'autre côté. Mais ils sont arrivés de l'autre côté. Quand vous êtes avec Jésus, la tempête peut surgir sur le chemin. Quand vous êtes avec Jésus, les obstacles peuvent surgir sur les chemins. Les murailles peuvent s'élever, mais s'il a dit, tu rentreras dans le pays des Canaan, s'il a dit, tu traverseras la rive, nous arriverons de l'autre côté, tu y arriveras avec lui. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est pourquoi nous n'avons pas de raison de nous décourager. Même si aujourd'hui, présentement, tu vois la tempête qui se soulève, tu vois des barrières et des obstacles de toute nature au devant de toi, si le Seigneur t'a dit, passons de l'autre côté, tu y arriveras. Il s'arrangera. Il ordonnera à la mer de se couper en deux. Alléluia. Il ordonnera aux murailles de s'affaisser. Alléluia. Il ordonnera à la mer et au vent de se calmer. Parce que quand le Seigneur donne une promesse, il est fidèle. Il est fidèle. Tu passeras, tu arriveras. S'il t'a dit qu'il y a tel héritage qui t'est réservé, quel que soit ce qui peut se présenter aujourd'hui au devant de toi, sois calme. Sois confiant. Parce que tu arriveras. Parce que tu entreras dans ton héritage. La Bible nous dit, ils arrivèrent, alléluia, sur l'autre bord de la mer, dans le pays des Gadaréniens. Aussitôt que Jésus fut hors de la barque, il vint au-devant de lui un homme sortant des sépulcres et possédé d'un esprit impur. Cet homme avait sa demeure dans les sépulcres et personne ne pouvait plus le lier, même avec une chaîne, car souvent il avait eu les fers aux pieds. Il avait été lié des chaînes, mais il avait rompu les chaînes et brisé les fers, et personne n'avait la force de le dompter. Il était sans cesse, nuit et jour, dans les sépulcres et sur les montagnes, vagabondant, criant et se meurtrissant avec des pierres. Ayant vu Jésus de loin, il accourut, se prosterna devant lui. Il s'écria d'une voix forte, « Qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, fils du Très-Haut? Je t'en conjure. Au nom de Dieu, ne me tourmente pas, car Jésus lui disait, sors de cet homme esprit impur. Il lui demanda, quel est ton nom? Légion est mon nom. Lui répondit-il, car nous sommes plusieurs. Et il le pria instamment de ne pas les envoyer hors du pays. Il y avait là, vers la montagne, un grand troupeau de pourceaux qui paissaient, et les démons les prièrent, disant, envoie-nous dans ces pourceaux, afin que nous entrions en eux. Il est leur permis, et les esprits impurs sortirent. Entrèrent dans les pourceaux. Et les troupeaux se précipitaient des pentes escarpées dans la mer. Il y en avait environ 2000. Et ils se noyèrent dans la mer. Ceux qui le faisaient paître s'enfuirent et répandirent la nouvelle dans la ville et dans les campagnes. Les gens allèrent voir ce qui était arrivé. Ils vinrent auprès de Jésus et ils virent le démoniaque. Celui qui avait eu la légion. Assis, vêtu et dans son bon sens. Et il fut saisi de frayeur. Amen. En fait, aujourd'hui, je voudrais parler de ces trois choses. Je n'aurai pas le temps de parler de ces trois choses, mais d'une seule chose. La Bible nous dit que quand Jésus a chassé les démons, ceux qui paissaient les troupeaux, parce que les démons avaient été envoyés dans les cochons, dans les pourceaux, ils se sont précipités dans les pentes escarpées dans la mer et ils se sont noyés. Et les gens qui ont vu ces spectacles ont été effrayés. Ils sont allés répandre la nouvelle, disant il s'est passé une chose extraordinaire. Les gens ont accouru et ils sont venus trouver. La Bible dit celui, écoutez bien ce que la Bible dit. Ils vinrent auprès de Jésus, verset 15e. Et ils virent le démoniaque. Ils virent le démoniaque. Et la Bible ajoute, celui qui avait été possédé de la légion. Et il y a comme une forme d'insistance. Ils virent le démoniaque. Celui qui avait été possédé par à peu près 2000 démons assis. Vêtu et dans son bon sens. Alléluia. Quand le Seigneur nous délivre, ces trois états sont essentiels dans la vie d'un chrétien. Que le Seigneur, que les gens nous trouvent assis, vêtus et dans le bon sens. Beaucoup de gens dans les églises ont été peut-être délivrés. Ma question ce matin, est-ce que tu es assis? Il faut que nous comprenions pourquoi la Bible utilise ces trois termes. Assis, vêtu et dans son bon sens. Mais permettez-moi d'abord de nous rappeler les contextes dans lesquels cette histoire se passe. Et je parlerai uniquement d'assis aujourd'hui. La Bible nous dit que quand on lit le début, comme nous l'avons lu, Jésus, au verset 35 du chapitre 4, Jésus dit à ses disciples, « Passons sur l'autre rive. » Dans toutes les versions que vous lisiez, les paroles de Jésus étaient sur un ton péremptoire, un ton exécutif, un ton impératif. C'est-à-dire, c'était un ordre. C'était déjà le soir. Si Jésus a utilisé un ton péremptoire, un ordre, c'est probablement parce que les disciples avaient voulu discuter. Pourquoi auraient-ils pu discuter? D'abord parce que la journée avait été très longue. Ça a été une journée au cours de laquelle le Seigneur a prêché pendant des heures et des heures et des heures. Les gens comme eux-mêmes étaient fatigués. C'était tout à fait normal, peut-être que les disciples disent au Seigneur, « Non, nous pourrons aller un autre jour sur le territoire des Gadara. Aujourd'hui, nous sommes si fatigués, c'est déjà le soir. Allons nous reposer, ça peut attendre. » C'était une bonne raison. Mais le ton était péremptoire, passant. Il n'y a pas à discuter. Le soir, nous le savons, comme nous l'avons dit il y a quelque temps, le lac de Galilée, c'est un lac jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs, qui est connu pour des tempêtes qui s'élèvent soudainement, des violentes tempêtes. Tout d'un coup, une tempête peut se déchaîner et mieux vaut, si vous traversez le lac, affronter la tempête pendant le jour ou pendant la journée que pendant le soir ou pendant la nuit. On peut attendre, Seigneur, parce que s'il se passe qu'il y a une tempête, ça va être très difficile à gérer. Mais Jésus a dit, passons de l'autre côté. Alléluia. De quel côté devait-il passer? Du côté qui était habité par des païens, des gens qui procédaient à l'élevage des animaux impurs, les cochons. Jésus, qui était censé avoir été envoyé pour les brebis perdues de la maison d'Israël, doit passer, il dit, passons de l'autre côté, c'est-à-dire vers les territoires qui est occupé, qui est habité par des païens, par des gens qui avaient l'habitude d'élever des animaux impurs. Mais il a dit, passons de l'autre côté. Alléluia. Il devait passer de l'autre côté dans une région hostile, une région dangereuse. Parce que quand vous lisez bien la Bible, vous allez voir que ces démoniaques s'étaient déjà pris à plusieurs personnes. D'ailleurs, plus personne n'osait s'aventurer là où il était parce que cet homme était devenu tellement dangereux que ce n'était pas malin, que ce n'était pas sage de passer par cette région-là. Une région plus tard, nous allons le voir quand Jésus va chasser les démons de cet homme, on ne va même pas l'accueillir. On va lui dire, monsieur, nous ne voulons pas de votre présence ici. C'était une région hostile. Mais Jésus leur a dit, passons, alléluia, sur l'autre bord. Pourquoi? La première raison, Jésus savait ce qui allait se passer. Jésus savait que la tempête se leverait. Les disciples l'avaient connu d'une certaine manière, mais ils n'avaient pas encore connu ou compris totalement qui était la personne de Jésus-Christ. Le Seigneur savait que la tempête se leverait. Et quand la tempête se leverait, il allait ordonner au vent. Il allait parler à la mer qui allait se taire, qui allait se calmer. Ce jour-là, il fallait que les disciples vivent la révélation d'un Dieu qui est le créateur du ciel et de la terre, qui est au contrôle et aux commandes même des éléments de la nature. Je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Il leur a dit, passons à l'autre bord, parce que premièrement, il allait se révéler à eux comme le maître de l'univers, le créateur, alléluia. C'est lui à qui obéissent même les vents et la mer. Ils ont vu Jésus ouvrir les yeux des aveugles, ils ont vu Jésus guérir les paralytiques, mais ils n'avaient jamais imaginé, ils n'avaient jamais entendu, ils n'avaient jamais vu quelqu'un parlait à la mer rouleuse et la mer se calme. Quelqu'un parlait à des bourrasques d'eau et elles se taisent. Quelqu'un parlait au vent et le vent cesse. Mais ce jour-là, C'était le jour pour les disciples de vivre cette révélation. Quand le Seigneur te dit, allons de l'autre côté, il ne te laissera jamais aller seul. Il ira avec toi. Alléluia. Le prix de ton obéissance va te permettre de rentrer dans une dimension que tu n'aurais jamais connue si tu étais toujours resté sur l'autre rive. Passons de l'autre côté. Ils allaient voir le vent et la mer se taire, se calmer. Deuxièmement, Jésus allait leur révéler qu'il est, alléluia, celui qui a autorité sur les esprits, même s'ils sont nombreux. Même si les esprits sont des milliers, la Bible dit dans les livres de Job, il est celui qui gouverne les esprits. Quand Dieu parle, les esprits lui sont soumis, quel que soit leur nombre. C'est pourquoi quand vous êtes avec Dieu, même si en face de vous il y a 2000 démons, il y a 1 million de démons, comme dit souvent ma fille, il y a millions de démons. Je parle à quelqu'un. Quand vous êtes avec le Seigneur, le maître du ciel et de la terre, celui qui gouverne les esprits, quand il parlera, les esprits vont se soumettre. Dieu est avec nous. Celui qui est avec nous est plus fort que la multitude qui se trouve dans le monde. Alléluia. Ces jours-là, les disciples vont voir et vont entendre. C'est pourquoi Jésus a posé la question à ces démoniaques. Non pas qu'il avait besoin de parler avec les démons, mais il voulait que les disciples comprennent qu'il gouverne même la multitude des esprits. C'est pourquoi il a dit, quel est ton nom? Que les disciples comprennent que Jésus n'est pas simplement celui qui chasse un petit démon ou deux petits démons ou trois petits démons. Ils peuvent être ensemble. Ils peuvent conjuguer leurs efforts. Cet homme était devenu violent parce que tous les démons conjuguaient leurs efforts en lui. Mais quand Jésus arrive et qu'il ordonne à toute cette légion de démons de partir, ils ne peuvent rien faire d'autre que d'obéir. Les disciples constatent que Jésus ne chasse pas simplement que un, ou deux, ou trois, ou 100 démons. Il est le maître des esprits. Il peut chasser la multitude, n'importe quel nombre de démons qui se présenterait au devant de toi. Par là, je veux extrapoler en te disant, Jésus est capable, pour la multitude de difficultés, de problèmes qui sont devant toi, de te donner une solution. Il ne va pas donner la solution quand il y a un problème, quand il y a deux problèmes, quand il y a trois problèmes. Il est le Dieu qui est capable de donner la solution à chacun des problèmes. D'ailleurs, la solution de Dieu pour ta vie est plus vieille que ton problème, parce qu'avant même, que le problème ne se pose, Dieu a déjà trouvé la solution. Avant que le problème du péché se pose à l'humanité, Dieu avait déjà prévu le plan B, le plan du salut par son fils Jésus-Christ. Je parle à quelqu'un. Ton problème n'est pas plus vieux que ta solution. En fait, la solution a déjà précédé le problème. La troisième révélation, c'est que c'était le jour, ce jour-là, c'était le jour pour les démoniaques de recevoir sa délivrance. Ça ne pouvait pas attendre. Même si c'était déjà le soir, Jésus a dit dans l'agenda de Dieu, c'est fixé qu'aujourd'hui, alléluia, vous allez remarquer que ces démoniaques, on ne nous donne même pas son nom. Il y a pas là quelqu'un? On ne nous dit pas s'il appartenait à une famille illustre, une famille connue. On dit simplement les démoniaques de Gadara. Vous savez, toi et moi, si on nous dit, Obama nous invite, nous allons aller très vite. Mais si on nous dit un inconnu quelconque qui porte des haillons, qui est malin, qui agresse les gens, a besoin de te rencontrer, nous allons hésiter, n'est-ce pas? Jésus ne regardera pas au fait que tu es d'une famille connue. Tu peux ne pas être d'une famille illustre, je parle à quelqu'un. Tu peux être d'une tribu la plus petite des petites, de la plus petite famille. La grâce de toi, de Dieu, est aussi pour toi. Alléluia. même si tu n'as pas un nom illustre, même si les gens ne te connaissent pas, même si les autres ne te fréquentent pas, il y a quelqu'un qui est dans les cieux qui s'intéresse à toi. Il y a quelqu'un qui est dans les cieux qui te connaît par ton nom. Il y a quelqu'un qui est dans les cieux qui voit ton besoin. Il n'a pas besoin de dire que c'est quelqu'un de la famille illustre. Il est de la famille royale ou présidentielle ou monarchique. Il est le Dieu qui te voit. Alléluia. Et qui viendra vers toi, et spécialement, parfois spécialement pour toi, pour t'accorder la délivrance, la guérison, pour te donner ce que tu attends. Les démoniaques qui étaient là, on ne connaît même pas son nom. Vous savez, il y a des gens qui pleurent, qui regrettent toujours de ne pas être connus. Il y a quelqu'un qui te connaît. Il y a des gens qui disent, si j'étais né dans une famille illustre, je vais te dire une chose. Tu es né, peut-être dans la famille biologique où tu es né, une famille qui n'est pas connue. Mais le jour où tu as donné ta vie à Jésus, tu es né dans la famille illustre, la famille des enfants de Dieu. Alléluia! Les cieux te connaissent, les anges te connaissent, les démons te connaissent aussi. Si tu ne sais pas, tu es connu en réalité. Cet homme n'avait pas un nom. Comment s'appelait-il? Peut-être par le nom, on pouvait dire, ah oui, ça c'est un nom d'une famille X connue. Mais c'était le jour, c'est pourquoi Jésus va dire à ses disciples, passons de l'autre côté. Alléluia. Un homme qui était rejeté, un homme qui était marginalisé, un homme qui n'était plus fréquentable, Jésus est allé à lui. Alléluia. Alors je voudrais te dire, si Jésus a agi ainsi, en faveur d'un païen, en faveur d'un homme d'une région païenne, à combien plus forte raison ne va-t-il pas agir pour toi qui es devenu son enfant? À combien plus forte raison ne va-t-il pas agir pour toi qui es devenu par la foi en Jésus-Christ fils ou fille d'Abraham? À combien plus forte raison ne va-t-il pas agir en faveur de toi qui est connu de Dieu, qui a reçu de Dieu un nouveau nom, qui est héritier des promesses de Dieu? Je voudrais te dire, quel que soit ton nom, il y a un nom nouveau qui t'a été donné. Alléluia. Parce que tu es devenu enfant de Dieu, celui qui t'a appelé à lui, celui qui t'a attiré à lui, ne te laissera jamais tomber. C'est pourquoi il a dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin de temps. Je ne vous abandonnerai point, je ne vous délaisserai point. Alléluia. S'il agit pour un païen, il agira pour toi. Dis, il agira pour moi. Il agira pour moi. Pourquoi? Parce que je lui appartiens. Je suis enfant de Dieu. Je suis l'héritier de Dieu. Co-héritier avec Jésus-Christ. Il agira. Et il y a dans l'agenda de Dieu un jour fixé pour toi. Ces jours-là, même si les circonstances ne se prêtent pas, l'Éternel agira en ta faveur. Ces jours-là, vous voyez, les disciples ont dit à Jésus, non, faisons en sorte de différer le voyage. Mais il est celui qui n'agit que selon le conseil de sa volonté. Quand le jour fixé par Dieu sera là, que ce soit le matin ou le soir, que la tempête se profile à l'horizon, qu'il y ait toutes sortes de combats, d'obstacles et de circonstances hostiles, le Seigneur agira en ta faveur. Alléluia. Au temps favorable, il se levera. Au jour du salut, il t'exaucera. Et ce jour-là, quand il arrivera, personne ne pourra arrêter Dieu. Personne ne pourra bloquer ta bénédiction. Personne ne pourra empêcher que ce qui a été préparé pour toi ne te parvienne. Il y a un jour, dans l'agenda de Dieu, je parle à quelqu'un. Vous lisez l'histoire, vous allez voir que Jésus ne s'était déplacé dans cette région que pour cet homme. Qu'est-ce qu'il a fait de plus? Rien. Parce qu'à peine il avait chassé les démons, qu'on l'a lui-même chassé, on l'a renvoyé de l'autre côté. Le Seigneur n'a même pas discuté parce qu'il savait que l'objectif pour lequel il avait fait ce voyage était atteint. Pour une personne. Pour un individu. Il y aura des jours, tu seras l'exception. Dans la multitude, dans une église où il y a plein de gens, le Seigneur peut ne venir que bénir exceptionnellement une personne. Plût à Dieu que cette personne soit toi. Vous savez, la plupart du temps, nous n'avons pas compris ce que nous sommes en réalité devenus. Nous sommes devenus enfants de Dieu. Alléluia. Dieu est devenu notre Père. Vous avez déjà vu un père ou une mère qui ne s'intéresse vraiment pas à la vie de son enfant? La Bible dit, même si ton père, même si ta mère pouvait t'abandonner, l'Éternel ne t'abandonnerait point. Tu pourras, il y aura des moments où il viendra uniquement pour toi. Dans une multitude de gens, il vient simplement pour te bénir. Alléluia! Pour te bénir. Tu seras ce jour-là l'exception de Dieu. Dieu ne prendra point de repos jusqu'à ce que ton salut paraisse comme l'aurore. Il viendra. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur viendra. Il y a de l'espoir. Jésus a dit, passons à l'autre bord. Il venait d'un bord. Dans le bord d'où il venait, regardez bien. Qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait Jésus, les disciples et la foule. Le bord vers lequel il partait, vous allez voir qu'il n'y avait plus que Jésus et les disciples. Parce qu'avant de traverser le lac, Jésus va renvoyer la foule. Je parle à quelqu'un. Écoutez-moi bien. Sur la première rive, il y avait Jésus, il y avait les disciples, il y avait la foule. Jésus renvoie la foule. Et de l'autre côté, il se retrouve Jésus et ses disciples, bien sûr, pour apporter la bénédiction à cet homme de Gadara. Alléluia. Qu'est-ce qui s'est passé entre les deux rivages? Qu'est-ce qui distingue les deux rivages? C'est simplement la présence de la foule que Jésus va renvoyer. Alléluia. La foule n'allait pas vivre ce que les disciples allaient voir. Si vous voulez vivre de grandes choses, si vous voulez être des témoins de la grandeur et de la puissance de Dieu, si vous voulez entrer dans la profondeur de la révélation de la personne de Dieu, vous devez apprendre à quitter aussi la foule. Je parle à quelqu'un. Vous devez apprendre à sortir de la foule pour être à l'écart avec Jésus. Il y a deux moments, le Seigneur va te demander de ne pas être dans la foule. Vous savez, la psychologie de la foule, c'est que tout le monde fait comme tout le monde. Vous allez voir dans un groupe, même les gens qui avaient certaines convictions peuvent se laisser influencer parce que tout le monde dans les groupes s'habille comme si, même lui va suivre comme ça. Quand nous sommes dans le monde, nous sommes comme dans le monde, dans la foule, nous sommes comme dans le monde, nous risquons de vivre et d'agir et de faire les choses comme ceux qui nous entourent. Nous avons besoin de sortir de la foule, d'être à l'écart avec Jésus pour que le Seigneur se révèle à nous. C'est comme ça que vous allez voir, Jésus enseignait en parabole devant la foule. Mais qu'est-ce qu'il faisait? Il prenait les disciples à l'écart pour leur expliquer l'interprétation des paraboles. Il y a des choses, si tu es dans la foule, tu es dans le monde, tu vis comme monsieur, madame, tout le monde, tu agis comme monsieur, madame, tout le monde, tant que tu n'as pas encore compris ce secret de sortir de la foule pour être avec Jésus à l'écart, pour passer de l'autre côté, afin de marquer une distance avec la foule, avec le monde, et se retrouver seul avec Jésus. C'est pourquoi de temps en temps, quand tu as le temps, prends un peu de retraite. Prends un peu de temps, tu t'isoles pour chercher la face de Dieu. Alléluia. Pour entendre Dieu te parler, pour poser des questions à Dieu. Tu t'isoles, tu t'enfermes et tu cherches la face de Dieu. Tu poses des questions à Dieu. Tu es à l'écart de tout. Tu es seul face à face avec le Seigneur. C'est des moments comme ça qui sont des moments de communion, des moments intenses où le Seigneur se révélera à toi, où le Seigneur parlera à ton cœur, où le Seigneur te donnera des orientations et des directives. C'est ce qui fait la différence entre les deux. Il dit, passons de l'autre côté. C'est le principe de la séparation. Alléluia. Alléluia. Sortir de la foule. Se séparer de la foule. Frères et sœurs, vous savez, la Bible dit, hein, Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Nous ne sommes pas du monde. Tu n'es pas du monde. Tu vis dans le monde, mais en réalité, tu n'appartiens pas au monde. Tu es quelqu'un qui a été mis à part. Tu as un saint sacerdoce. Tu es une élite de la classe royale, mise à part pour Dieu. Alléluia. Tant que nous vivrons séparés de la foule, séparés du monde, alors le Seigneur sera, nous serons dans les secrets du Seigneur. Il nous révélera sa volonté. Il nous révélera sa pensée. Il nous donnera des directives. Et nous serons des témoins des choses que le monde, que la foule ne peut pas voir, parce que ce n'est pas au milieu de la foule forcément que le Seigneur va opérer certains miracles. Vous allez voir, même au milieu des disciples, il avait l'habitude d'en amener 3, n'est-ce pas? Quand il devait rentrer dans la maison de Jaïrus, ce n'est pas les 70 disciples, ce n'est pas les 12 apôtres, il va prendre 3 qui vont être témoins de la résurrection de cette jeune fille. C'est le principe de la séparation. Il dit, passons à l'autre bord. Qu'est-ce qu'il fait? Il renvoie la foule. Si tu es dans la foule, je vais te dire, vous savez, il y a des gens qui viennent à l'église, mais qui sont dans la foule. Ils viennent par mouvement, parce que son oncle vient, lui aussi il vient. Parce que le dimanche, il n'y a rien à faire. Lui aussi, il vient à l'église. Je ne veux pas venir à l'église parce que, comme quelqu'un qui est dans la foule, je viens à l'église parce que je porte le statut des disciples. Alléluia! Ce que le Seigneur va dire, montons dans la barque, je renvoie la foule. C'est vous qui allez monter avec moi dans la barque pour que vous puissiez voir ce que je veux vous révéler. Maître de l'univers, maître qui gouverne les esprits, et celui qui marche selon l'agenda de Dieu. C'est à vous les disciples. Beaucoup de gens disent qu'ils sont des disciples, mais dans la réalité, ils sont dans la foule. Si vous êtes disciples, vous pouvez les savoir par vous-même. La Bible dit, le disciple fait quoi? Le disciple, c'est celui qui suit son maître. Tu suis qui? Qui est ton maître? Je parle à quelqu'un. Tu suis qui? Il y a des gens qui suivent le monde. Le frère Emma nous disait le dimanche passé, il y a des jeunes gens à l'église. On a percé l'oreille. Vous savez en Israël pourquoi on perçait l'oreille aux gens? C'est l'esclavage. Quelqu'un qui... Son patron, après avoir été esclave pendant des années, le patron lui dit, « Ok, tu as fait beaucoup de temps avec moi, je te libère, tu n'es plus esclave. » Il dit, « Non, 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 moi je veux rester, continuer avec toi. » Alors le patron lui dit, « Je vais te percer l'oreille pour montrer que tu deviens esclave à vie. » Alors on fait des choses parce que les autres les font. Nous n'avons qu'un maître, Jésus le Seigneur de gloire. Le disciple, c'est quelqu'un qui suit un maître. Qui est ton maître et qui suis-tu? Il y a des gens qui suivent la mode, vrai ou faux. Je ne dis pas que forcément la mode c'est quelque chose de mauvais, mais il y a des choses dans la mode qui ne sont pas bonnes pour un enfant de Dieu. Nous les hommes, ça passe encore. Mais la mode des femmes, quand vous regardez les femmes qui vont présenter leur film à Cannes, elles sont à moitié nues, n'est-ce pas? Et vous, vous allez imiter ça et vous venez comme ça à l'église. Enfant de Dieu, tu suis qui? Il y en a qui mettent leurs pantalons jusqu'ici, les hommes. Vous n'avez jamais vu des hommes comme ça? Parce qu'il y a une star. À une certaine époque, je me rappelle, il y avait un grand musicien de notre pays qui portait des grosses chemises qu'on appelait des catars. Et tout le monde s'est mis dans la mode du Qatar. C'est-à-dire vraiment des grosses chemises. Des gens, ils voient une star marcher comme ça. Lui aussi, il marche comme ça. Et il suit qui? Hello? Le disciple, c'est celui qui suit le maître. Dites amen. C'est celui qui obéit à son maître. Tu obéis à qui? Tu sais, tu peux toi-même te dire, je suis véritablement disciple du Seigneur ou pas. Et si tu n'es pas disciple du Seigneur, c'est que tu es dans la foule. Et si tu es dans la foule, ça veut dire que tu es dans la masse de ceux qui sont restés, qui ont même été renvoyés sur l'autre rive. Tu n'es pas de ceux qui ont pris la barque avec Jésus pour voir comment les vents cessent, comment la mer s'écarne quand Jésus parle, comment un démoniaque possédé de 2000 démons peut revenir dans un état normal. Comment Dieu peut fixer des agendas pour quelqu'un, même si c'est le soir, et lui accorder la bénédiction. Le disciple, c'est celui qui imite son maître. Vrai ou faux? Si Jésus mettait des pantalons jusque-là, faites-le. Nous bénirons le Seigneur avec ça. Alléluia. Si Jésus avait une démarche catastrophée, fais-le. Le disciple, est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? C'est celui qui vit comme son maître. Jésus était bon. Pourquoi tu es si méchant? Pourquoi je suis si méchant? Jésus n'était pas hypocrite. Jésus n'était pas colporteur. Il parlait aux gens face à face. Disciple, et tu sors de ton église. Tu sais. Je vais te dire une chose. Tu es dans la grande masse de ceux qui sont restés sur l'autre bord. Alléluia. Alléluia. Quelqu'un, il est calme chez lui, mais toi qui te dis enfant de Dieu, tu es chez toi avec un groupe de gens en train de colporter, de chercher à nuire à cette personne-là. Et tu viens le dimanche à l'église et tu loues le Seigneur. Dieu, on ne se moque pas de Dieu. Si tu veux voir de grandes choses dans ta vie, tu dois apprendre ce principe. Quitter le bord où il y a la foule. Mettre la distance avec la foule. Traverser avec Jésus. Aller de l'autre côté avec le Seigneur sur un ordre. Même si tu sais que la tempête va se lever, il est avec toi. Le disciple, c'est celui qui apprend de son maître. Alléluia. Alléluia. Vous savez, mes bien-aimés frères et sœurs, je ne suis pas contre Internet. Mais aujourd'hui, les gens apprennent plus sur Internet des choses désagréables que le temps qu'ils passeraient à apprendre de Dieu des choses qui les instruisent. Internet est devenu pour certaines personnes leur source principale d'information et de formation. Et même de déformation aussi d'ailleurs. Alléluia. Je veux, vous allez le voir, je vais en parler tout à l'heure, assis au pied de Jésus comme Marie, pour apprendre la parole de Dieu. Parle à quelqu'un. Alléluia. Il a dit, passons de l'autre côté. Le disciple, ce sont les disciples qui sont passés avec le Seigneur. Un disciple, il est l'imitateur de son maître. Et pourquoi Paul disait, soyez mes imitateurs, comme moi, je le suis de Christ. J'imite Christ. Si tu imites Christ, si j'imite Christ, mes frères et sœurs, l'amour régnerait entre nous. Si cet homme était devenu très violent, je l'ai dit, c'est parce que les démons, même s'ils se haïssent, parce que dans les cœurs, il n'y a pas d'amour dans un démon. Mais ils sont obligés de travailler ensemble, même s'ils se détestent. Et ils produisent de tels effets. Si les chrétiens pouvaient travailler ensemble avec l'amour dans les cœurs, nous ferions encore de plus grandes choses. Il n'y aura pas ces gens qui vont parler du mal des autres, des gens qui vont te regarder avec un air suspicieux. Ils te regardent et ils te mettent mal à l'aise déjà. Alléluia. Quand tu passes à côté de lui, il s'éteint et puis il se retourne. Et tu sens qu'il est en train de parler de toi. Et de parler mal de toi. Parce que si ce qu'il était en train de dire était une bonne chose, il va continuer à le dire. À dire, ah mais justement frère Emma, j'ai parlé de toi frère. Comme ce jour-là tu nous as apporté la parole. C'était merveilleux. Alléluia. Mais quand le frère Emma passe et que c'est qu'il y a quelque chose. Est-ce que Christ nous limitons? Est-ce que nous sommes dans la barque de Jésus parce que nous sommes des disciples? Jésus n'a pas pris tout le monde. Il a pris ses disciples. C'est à ses disciples qu'il a dit, passons sur l'autre rive. Et c'est en obéissant à cet ordre que les disciples vont commencer à vivre des choses extraordinaires. Alléluia! Alléluia! Si nous voulons voir des grandes choses, nous devons changer de camp. Nous devons changer parfois de milieu. Dites un bon amen. Quitte le milieu dans lequel tu es. Parce que là, la foule t'influence. Le monde t'influence. La mauvaise compagnie t'influence. Change de bord. Change de camp. Mets-toi à l'écart avec le Seigneur. Alléluia. Passons à l'autre bord. C'était un ordre. Comme Abraham avait reçu un ordre, quitte ton pays. Quitte ta famille. Quitte ta patrie. Et va. Change de village. Change de ville. Mais va dans le lieu que je t'indiquerai. Abraham a fait quoi? Abraham a obéi. Est-ce que tu es prêt à obéir aujourd'hui? Regarde dans quel, sur quelle rive tu te trouves présentement. Si tu es sur la bonne rive, continue. Mais si tu es sur la mauvaise rive, aujourd'hui, prends la décision de changer de bord et d'aller avec le Seigneur. Alléluia. De mettre une certaine distance entre toi et le monde, entre toi et la foule. Quitte, quitte, parce que le Seigneur te dit, viens, on va passer de l'autre côté. Alléluia. Les disciples ont dit, peut-être, Seigneur, passe à l'endemain. Il dit, non, c'est aujourd'hui. Parce qu'il devait manifester son salut jusqu'aux extrémités de la terre, nous dit Esaïe. Et même donc, si c'était dans un pays des païens, dans une région des païens, Jésus devait y aller. Parce que la Bible dit dans Esaïe 49, qu'il est celui qui a été envoyé pour manifester son salut jusqu'aux extrémités de la terre. Il devait aller dans ce pays de Gadara, même si c'était déjà le soir. Le soir, c'est le moment où on dit, il n'y a plus rien qui peut arriver. Si on attendait quelque chose, n'est-ce pas? On attend son chèque postal quand le facteur passe vers 10h, 11h, n'est-ce pas? On attend dans la matinée, dans la journée, un coup de fil pour te dire, ah, cette démarche-là a abouti, n'est-ce pas? Quand c'est le soir, vous dites, oh là là, maintenant, on attend demain. Ce démoniaque était démoniaque le matin. Il était démoniaque en début d'après-midi. Il était démoniaque dans l'après-midi. Mais Jésus était en chemin le soir pour lui apporter la délivrance. Même si tu es au soir de ta vie, la bénédiction de Dieu n'est pas exclue pour toi. Même si pendant des années, tu n'as rien vu, ça fait rien. Même au soir, nous sommes là à la fin de l'année, on peut dire nous sommes au soir de l'année 2010. Attends-toi encore. En janvier, tu n'as rien vu. En mai, tu n'as rien vu. Tu te dis, ah, mais non, je ne peux plus attendre la bénédiction que l'année prochaine parce que nous sommes déjà au soir de l'an 2010. Je vais te dire une chose et je prophétise pour toi avant la fin de cette année. Un miracle t'arrivera, une bénédiction t'arrivera, une grâce t'arrivera, une faveur t'arrivera. Alléluia! Parce qu'il est le Dieu qui agit le matin, mais il agit aussi le soir. Il est le Dieu qui agit à midi, mais qui agit aussi à minuit. Alors, à tout moment de ma vie, je m'attends à la bénédiction du Seigneur. Et ne dis pas, c'est déjà trop tard. Quand Caleb est allé voir Josué pour lui réclamer la montagne de Hermon, il a dit, j'avais 40 ans à l'époque, maintenant j'en ai 85. Je suis toujours fort. Je suis peut-être au soir de ma vie, mais je dois posséder mon héritage. C'est le soir que le Seigneur est allé pour accorder la bénédiction. Alléluia. À cet homme de Gadara. Amen. Je vous ai donné l'introduction. Maintenant je vais prêcher. Tout ce que je vous ai dit, c'était un rappel. Nous arrivons au verset 15. Alléluia. Nous arrivons au verset 15 du chapitre 5e. La Bible nous dit, les gens sont venus auprès de Jésus. Ils vinrent auprès de Jésus. Et ils virent les démoniaques. Celui qui avait eu la légion. Ah, j'aime déjà ce terme-là. Ils virent le démoniaque. Celui qui avait eu la légion. C'est au passé. Un jour, les gens te verront, toi. Celui qui avait eu telle chose. Celui qui avait échoué autant de fois. Celui qui avait été stérile pendant des années. Celui qui avait été célibataire pendant des années. Ils te verront. Les gens qui... C'est pourquoi, écoute-moi bien. Alléluia. Quand Dieu va te bénir, Dieu te bénira dans les lieux de ton humiliation. Je parle à quelqu'un. Pour que ceux qui t'ont vu pauvre te voient riche. Ceux qui t'ont vu malheureux te voient maintenant heureux. Ceux qui t'ont vu dans l'humiliation te voient dans l'élévation et qu'eux-mêmes conjuguent le verbe être, le verbe avoir, le verbe voir au passé. Alléluia! Qu'ils conjuguent tous les verbes du monde au passé. Alléluia! Ils sont venus. Si tu as été humilié dans cette ville, alléluia, attends le temps, même si tu dois aller ailleurs, attends le temps où Dieu va t'élever dans la même vie. Pour que ceux qui t'avaient vu malheureux, triste, humilié, je parle à quelqu'un, ceux-là voient maintenant les changements dans ta vie. C'est pourquoi la Bible dit, ils sont venus auprès de Jésus. Et ils ont vu le démoniaque. Et la Bible ajoute, celui qui avait eu la légion. Combien de gens ici, alléluia, n'avaient pas eu le rejet, n'avaient pas eu l'ordre de quitter le territoire. Certains te voient aujourd'hui avec la carte de séjour illimitée. Je parle à quelqu'un. À une certaine époque, ils disent, ah, ce type, vous savez, il a reçu un ordre de quitter. Comme si c'est agréable pour un frère d'avoir un ordre de quitter le territoire. Quand dans la vie, vous n'êtes pas encore en mesure de garder un secret, il y a beaucoup de choses que le Seigneur ne peut pas te révéler. J'étais au cours la semaine passée, je prends le cours le soir, je ne vais pas vous dire de tout ça. C'est pour ne pas m'endormir complètement. Alors, le sujet c'était quoi? C'était les 6 choses les plus difficiles à garder. Enfin, des promesses non tenues. Parmi ces choses, on dit les plombiers, les électriciens et tout. Tous ces gens-là ne tiennent pas leurs promesses. Il te dit, je viens lundi, il va venir après que tu aies appelé 10 000 fois. N'est-ce pas? Et l'autre, c'était les gens qui te disent, je t'aimerai toute ma vie. Il y a beaucoup de gens qui font des déclarations comme ça. Je t'aimerai toute ma vie. C'est une grande promesse. Le jour du mariage ici, tu dis quoi? Pour le meilleur et pour le pire. Tu as renoncé à tout autre. Est-ce que tu es conscient de cela? Que c'est une promesse que tu dois tenir jusqu'à la fin de ta vie. Et puis il y a le secret. On dit, quand les études démontrent que lorsque tu as dit à quelqu'un c'est un secret, lui aussi va dire à quelqu'un aussi c'est un secret. Et au bout de quelques temps, toute la rue est dans le secret. Alléluia. Alléluia. Il faut apprendre à tenir, à garder le secret. Alléluia. Alors ton frère, il a reçu un ordre de quitter le territoire. Et il a un ordre de quitter le territoire. Parfois, il y a quelqu'un qui va le faire comme pour... Frère Blaise, soutenons le frère lui. Alors Blaise, il dit, mais pasteur, on va le soutenir. Pourquoi? Mais pasteur, il a un ordre de quitter. Il ne le dit pas avec compassion. Il le dit pour te dire. Mais attends. Parce que ceux-là qui ont dit, qui t'ont vu, que tu avais reçu cet ordre de quitter. Quand le Seigneur de gloire va intervenir, alléluia, il faudra qu'il voie que tu as maintenant un ordre permanent de séjour, et cela arrivera, alléluia, quand le Seigneur agira dans ta vie. C'est pourquoi la Bible commence ici en disant, les gens sont venus auprès de Jésus. Et ils ont vu les démoniaques, celui qui avait eu la légion. Un jour, on conjuguera certains verbes au passé en ce qui te concerne. OK? Parce que tu marches avec le Seigneur. Le moment où il va changer ta situation, les gens verront. Alléluia! C'est comme quand il avait guéri l'aveugle. On est venu le voir, il dit, est-ce que c'est toi ou c'est pas toi? Il dit, mais c'est moi! Les gens s'étonneront parfois de voir les changements spectaculaires, la grâce et la bénédiction de Dieu dans ta vie, et certains se poseront la question si c'est la même personne, si tu es la même personne. Tu leur diras, c'est bien moi. Alléluia! Certains vont chercher des témoins. Qui les connaissait? Qui les connaissait? C'est le frère Roger. Frère Roger, est-ce que c'est vraiment lui? Est-ce que c'est lui là? Est-ce que c'est lui Sarah? Est-ce que c'est lui Marcus? Mais c'est lui! Je parle à quelqu'un qui avait été possédé par la Légion. Ils sont venus. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont trouvé d'abord cet homme assis. Je vais juste parler de ça. Assis. Assis pourquoi? Si vous lisez le texte, c'est parce que cet homme, avant que Jésus ne le rencontre, qu'est-ce qu'il faisait? Il était en train de vagabonder, d'errer partout, dans les sépulcres, dans les montagnes, dans les cavernes, dans les vallées, criant, se meurtrissant, déchirant ses vêtements. D'ailleurs, il était pratiquement nu. Mais quand le Seigneur intervient dans sa vie, on le trouve assis. Deuxième chose, on va le trouver comment? Vêtu. Voyez, Jésus va changer d'abord sa situation familiale. Parce que quand il était assis auprès de Jésus, il est certainement parti dans sa famille, maintenant il était là. Il va se retrouver vêtu. Jésus va toucher sa situation économique. Je parle à quelqu'un. Vêtu. Vêtu. Tu sais, toi là, quand tu veux acheter un vêtement, c'est parce que ta situation économique est favorable. Il fut un temps pour acheter. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Tu t'es déjà regardé comme ça dans un miroir et tu t'es dit, oh. Comme ça que certaines personnes arrivent en retard à l'église. Parce qu'ils passent tout leur temps à mettre des vêtements devant la glace, à regarder, à harmoniser. Pardon? À changer. Oui, c'est vrai, frère. Il prend d'abord surtout les sœurs. Oh. La situation économique a changé. Alléluia. Et puis, troisièmement, dans son bon sens, la situation intellectuelle, le mental va changer. Quand Jésus te touche, vous voyez, Jésus n'est pas venu uniquement pour nous bénir dans un domaine, mais dans tous les domaines qui touchent à notre vie. Alléluia. Assis. Je vais parler simplement d'assis ce matin. L'opposé ou le contraire d'assis, c'est debout. N'est-ce pas? Vous êtes d'accord avec moi? Je ne dis pas qu'être debout, c'est mauvais. Non, nous devons être debout pour marcher. Nous devons être debout pour faire pas mal de choses. Alléluia. Dieu veut qu'après t'avoir sauvé, tu te retrouves dans ces trois états. On décrive ta vie dans ces trois états. Assis, vêtu et dans ton bon sens. Je vais vous démontrer, mes frères et sœurs, au fur et à mesure que nous aurons le temps, l'occasion de partager, que beaucoup de gens ne sont pas dans leur bon sens. Ils sont des chrétiens, mais ils se comportent encore comme des fous, comme des gens irrationnels, comme des gens qui n'ont pas la raison, qui n'ont pas la sagesse de Dieu. Il y a des gens qui pensent être vêtus, ils sont comme Adam et Ève après avoir péché, ils vont utiliser des feuilles de figuier pour se faire des vêtements, alors que ces feuilles allaient sécher l'instant d'après et allaient tomber les unes après les autres. Il a fallu que Dieu lui-même les habille. Alors, je ne sais pas de quels vêtements certains parmi nous sont vêtus. Je parlerai de cela. Mais aujourd'hui, je vais parler d'être assis. Es-tu assis? Quand vous êtes debout, juste pour vous promener sans but, vagabonder, errer, ce n'est pas la volonté de Dieu. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Il y a des gens qui passent leur journée à vagabonder et à errer sans but. Il suffit qu'on dise, il y a tel événement là-bas, il est parti là-bas. Parce qu'il est debout, parce qu'il peut marcher. Beaucoup de gens aiment être tout le temps debout. Courons-ci, courons par là. Mais Dieu nous exhorte à nous asseoir. Vous savez pourquoi? Premièrement, parce que Dieu lui-même est assis. Assis sur son trône. Dieu n'est pas agité. Dieu n'est pas vagabond. Dieu n'est pas en train de courir toutes les rues. Dieu est d'abord assis sur son trône. Et à sa droite, qui est assis? Jésus, son fils, est aussi assis à sa droite. Alléluia. Être assis, cet état décrit la position de quelqu'un qui règne, de quelqu'un qui domine, de quelqu'un qui juge avec autorité. Vous ne pouvez pas vous tenir debout sur un trône et dire « je règne ». Attendez. Mon épouse, enlève un peu ta Bible là, s'il te plaît. Si je monte là comme ça, je suis debout là-bas, je dis « je règne », vous allez me trouver ridicule. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Celui qui règne, il est assis sur son trône. Et il parle avec autorité. La Bible dit dans le psaume 110, « ton Dieu ordonne que tu domines au milieu de tes ennemis. » Pour dominer, tu dois être dans la position assise. Assis dans la parole. Assis dans la foi. Je parle à quelqu'un. Assis dans les promesses de Dieu. Assis dans l'autorité que confèrent les Écritures. Tu t'assois et tu règnes. Et tu donnes des ordres. Et tu domines. Et tu commandes. Alléluia. Si tu es encore debout, errant-ci, errant-là, agité. Tu n'es pas vraiment dans la position de dominer. Le Seigneur, la Bible dit, nous, enfants de Dieu, Dieu est assis sur son trône, Jésus est assis à la droite du trône, et nous sommes assis avec lui dans les lieux célestes. La position que décrit Dieu par rapport aux chrétiens, ce n'est pas la position de quelqu'un qui vagabonde. C'est quelqu'un qui est assis, assis même dans son église. Vous savez, il y a des gens qui sont de vrais papillons. Il va d'église, mais c'est vrai, vous avez déjà vu un papillon quand il veut se nourrir. Sur les fleurs, il se nourrit de quoi? Du nectar. En même temps, il assure la fécondation, bien sûr, des fleurs. Il est comme ça. Dieu n'a pas besoin de touristes spirituels. Dieu n'a pas besoin de gens qui viennent un peu, qui font un peu les choses et qui partent, qui font un peu les choses et qui partent. Assis! Tu es assis dans l'église où tu es enseigné. Tu es assis dans les promesses de Dieu. Quand les tempêtes viennent, tu dis Dieu a dit. Alléluia! Quand les doctrines viennent, tu dis Dieu a dit. Tu es assis. Comme ton Père céleste est assis sur son trône. comme Jésus est assis à la droite du Père, Dieu veut te voir aussi assis. Est-ce que tu es assis dans la parole? Dans la parole. Assis, assis. Dans la parole. Le diable, il vient, il te dit, oh, regarde cette jeune fille. Regarde ce jeune homme. Tu dis, il est écrit. Alléluia. Tu es un homme marié. Regarde. Tu lui dis, j'ai juré fidélité. C'est écrit comme ça. Je suis assis dans la parole, aux côtés de Jésus. Donc, ça, être assis, c'est cet état d'abord, cet état, alléluia, de quelqu'un qui règne. Et parce que Dieu nous demande de dominer sur nos ennemis, nous devons être assis comme Dieu, alléluia, assis sur l'autorité. Jésus a dit, je vous ai donné le pouvoir. Vous savez, je vais vous dire une chose. Il y a des textes, Jésus nous a donné l'autorité, il y a des textes où on ajoute le pouvoir. Il faut que je vous fasse parfois comprendre la différence entre le pouvoir et l'autorité. Vous savez, Satan a reçu un pouvoir énorme. Mais je bénis le Seigneur parce que quand vous lisez bien la Bible, Dieu nous a donné deux choses. Dieu nous a donné et l'autorité et le pouvoir. Regardez, je vous donne un exemple simple. Alléluia. Quand vous voyez un policier qui règle la circulation, il a reçu quoi? Le pouvoir. Le pouvoir. Il n'est pas plus fort que ça. Si une voiture vient, il peut même l'écrabouiller. Mais il a le pouvoir. Satan peut avoir reçu le pouvoir. OK? Mais l'autorité que nous avons, c'est-à-dire on a cette puissance même de les déplacer. Assis. Deuxième chose. Ah, Seigneur. Est-ce que tu as compris pourquoi Dieu te demande d'être assis? Pour que tu sois en position de dominer et de régner. Parce que ton Père céleste est assis. Imaginez, vous êtes invité au palais royal. Le roi et la reine sont assis. Et vous, on vous a donné une chaise, mais vous dites, Sa Majesté, moi, je suis habitué à être debout. Deux minutes après, tu es debout. Le roi te dit, chut, et puis tu t'assois un peu. Et puis après, assis. Les circonstances viennent, tu es assis dans la parole. Alléluia. Alléluia. Tu domines, tu règnes. C'est l'état de quelqu'un qui est calme, qui est posé. C'est un état de stabilité, c'est un état de constance, c'est un état de fermeté. Si vous êtes debout et qu'il y a un vent à 200 km/h, ça peut te balayer. Mais quand tu es assis, tu ne vas pas être balayé comme quelqu'un qui est debout. Parce que le centre de gravité est plus bas. Tu deviens encore plus stable. Dieu veut que dans notre relation avec lui, nous soyons constants. Assis, fermes. C'est pourquoi la Bible dit dans Ésaïe au chapitre 26, à ceux qui sont fermes, dans leur conviction, à ceux qui sont stables dans leur relation avec toi, tu leur assures la paix. Alléluia. Dieu veut te voir assis. Une relation constante. Une relation stable. Tu es ferme, tu es constant dans tes sentiments, dans ta foi, dans tes dispositions, dans ton espérance. Pas une relation de temps en temps, oui, ça va, et puis, non, tu es constant, tu es ferme, tu es assis. Cette relation, c'est une relation que rien ne peut ébranler. Quand je nous vois parfois à l'église, quelqu'un il vient aujourd'hui, je le disais, je ne sais pas quel temps, quel jour encore. Un mois plus tard, vous ne le voyez pas. Il est où? Où est-ce que vous êtes? Quelqu'un qui est constant dans sa relation avec le Seigneur. Vous n'avez pas besoin de l'appeler au téléphone, de le supplier pour qu'il entretienne cette relation. Il est stable. Je parle à quelqu'un. Oh, Seigneur de gloire. Allez voir comment les gens sont parfois en train de chercher Dieu en Afrique. Ici, quand quelqu'un a mangé son fromage, yaourt et tout, il dort, il rêve. Oh, c'est ça la vie. Oh, merci Seigneur. Et pourquoi parfois, il faut manquer de yaourt. Et c'est comme ça que nous ne sommes plus en mesure de jeûner. Il y a des gens qui vous disent, je vais jeûner. Nous allons entrer dans ce mois de décembre avec jeûne. Commençons la semaine ici. Je suis sérieux avec jeûne. Alléluia. Si je dis ça, vous allez voir, il n'y aura plus beaucoup d'amen. Amen. Stable dans ta relation avec le Seigneur. Tu bénis le Seigneur, mais tu es là. Tu n'as pas, tu bénis le Seigneur, mais tu es là. Il y a une constance. Il suffit pour certaines personnes ici d'être bénies. C'est fini. C'est fini. Ils vont même changer de numéro de téléphone sans avertir le pasteur. Je parle à quelqu'un. Ils vont même commencer à regarder sur leur téléphone les numéros. Si c'est du pasteur, il ne prend pas. Venir à l'église devient un problème. Non, 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 non. Plus tu es béni. Vous allez voir, tous ces gens, la plupart des gens, quand ils, c'est comme les boiteux qui étaient aux portes du temple. Quand il est béni, il est guéri, qu'est-ce qu'il fait? Il entre dans le temple. Alléluia! Il entre au temple pour louer, sauter, danser pour le Seigneur. Il dit, non, 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 je veux te suivre. Même ces démoniaques, d'ailleurs, vous allez voir, il dit à Jésus, je veux te suivre. Le Seigneur lui dit, non, 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 non. Va dire au tien, ta famille, les gens de ton village, de ton pays, c'est que le Seigneur a fait pour toi. Ce type est devenu évangéliste du jour au lendemain. Que tu sois béni, que tu ne le sois pas encore, ta relation avec le Seigneur doit être une relation constante. Tu es assis dans cette relation. Alléluia. Le jour où tu deviendras millionnaire, alléluia, il y a quelqu'un qui viendra ici, s'il n'y a pas encore les climatiseurs. Comment je peux venir ici? Viens ici. Avant, tu étais où? À la limite, donne une partie de tes millions, on construit une belle salle. Alléluia. Ou on rachète l'hôtel de ville d'Anvers et nous construisons notre salle de culte là-bas. Et ils cherchent un autre endroit pour faire l'hôtel de ville. Alléluia. C'est l'argent parle. Mais c'est juste un exemple. Le jour où il est béni, est-ce qu'il continue à entretenir cette relation avec Dieu? Être assis, c'est également la constance dans sa relation avec Dieu. Dites amen. Il faut que j'aille très vite. C'est la position de quelqu'un qui est en attente. Jésus a dit dans les psaumes 110, et la Bible dit, « Assis-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marche-pied. » C'est-à-dire, attends, tu t'assois et tu attends. Parce que je vais m'occuper de tes ennemis. Être assis dans la vie chrétienne, c'est une position d'attente. Et l'attente, ça signifie la patience. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je parle à quelqu'un. La patience. Donc, vous allez voir, Dieu assis, c'est la puissance. Amen. Deuxièmement, j'ai parlé de la constance. Troisièmement, je parle de la patience dans la position assise. Assis-toi à ma droite. Sois patient. Pourquoi tu es pressé? Tu veux prendre les raccourcis. Les raccourcis ne mènent nulle part qu'au désastre. Dans Exode 13, la Bible dit, Dieu, quand il a fait sortir son peuple d'Israël, d'Égypte, il ne leur a fait pas passer par le chemin le plus direct. Il a pris des détours. Pour deux raisons fondamentales. La première, leur apprendre la loi, la parole de Dieu. Moïse devait les conduire sur le mont Sinaï. La deuxième, c'est parce qu'il y avait la guerre. Ils n'étaient pas encore préparés à la guerre. Les détours de Dieu sont là pour nous former. Mais quand tu sais que Dieu a dit, nous arriverons de l'autre côté. Même si les détours prennent un peu de temps, vous êtes patient parce que vous savez que vous arriverez où le Seigneur a dit qu'il vous conduirait. Les gens sont devenus aujourd'hui impatients. C'est comme ça que nous tombons. Parfois, surtout en matière de mariage, sur des hommes qui sont des échantillons rares. Sur des femmes qui sont des espèces rares. Quand tu vois la méchanceté de certaines femmes, tu te dis, c'est pas possible. Ou de certains hommes, comment ils traitent leurs époux, tu te dis, c'est pas possible. Mais parce qu'on a été trop pressé. Alléluia. Quand tu es assis ou assise à côté du Seigneur, lui-même va s'occuper de tes ennemis, de tes problèmes, de tes fiançailles, de tout. Alléluia. Et dis, assis-toi, sois calme. C'est une position de confiance, d'attente, de patience. Merci beaucoup, ma fille. Alléluia. Alléluia. Il dit, assis, cet homme a été trouvé assis. Est-ce que tu es patient? La Bible dit, le laboureur attend le précieux fruit de sa récolte. Il attend les pluies de la première et de l'arrière saison jusqu'à ce qu'on lui donne ses pluies. Alors, il attend patiemment. Attends. Attends, frère. Attends. Ma sœur, attends. Vous savez, il y a des gens qui se marient en disant, il va changer. Elle va changer. Attends. Attends. Quand il y a des signes de la part du Seigneur, clairement que ce n'est pas elle ou que ce n'est pas lui, laisse tomber. Dites amen. Oh, pasteur, moi je l'aime. Moi je l'aime. Le jour où tu viendras me dire je le déteste, je te dirai, aime-la. Dites un bon amen. Oh, le Saint-Esprit m'a parlé. Le Saint-Esprit, c'est toi-même qui deviens le Saint-Esprit. Tu t'es parlé à toi-même. Vous savez, beaucoup de gens prennent leurs rêves, leurs pensées pour la parole de Dieu. Dieu m'a dit. C'est pas Dieu qui lui a dit, c'est lui-même qui s'est parlé. Il a parlé à lui-même, il dit, Dieu m'a dit. Dieu t'a dit quoi? Sois patient. Sois patiente. Dieu te prépare cet homme. Alléluia. Dieu te prépare ce prince. Toi, tu es simplement assise aux côtés du Seigneur. Pas en train de vagabonder dans toutes les rues d'Anvers. Et tu viens de temps en temps. Seigneur, j'ai été me promener toute la journée, maintenant je suis fatigué, je viens m'asseoir. Non, tu es assis aux côtés de Jésus. Alléluia. Quand il y a la prière, tu es là. Quand il y a jeûne et prière, tu es là. Quand il y a veillée, tu es là. Quand tu as séminaire, tu es là. Seigneur, me voici assis à tes côtés. Occupe-toi maintenant de mes ennemis. Occupe-toi maintenant de mes problèmes. Je suis là, Seigneur, à tes côtés. Ah, les gens sont des vrais vagabonds spirituels. Alléluia. Alléluia. C'est l'état de quelqu'un qui attend de recevoir la bénédiction. Jésus, avant de multiplier les pains, dit à ses disciples, faites-les asseoir. Faites-les asseoir. Il y avait là beaucoup d'herbes et on les a fait asseoir. C'est la position pour recevoir la bénédiction de Dieu. Alléluia. Alléluia. Pose-toi la question. Est-ce que tu es assis? Ou là, présentement, spirituellement parlant, tu es debout? Vous savez qu'il y a des gens qui sont là au moment où nous prêchons, mais qui, l'esprit est ailleurs. C'est-à-dire, en réalité, lui, il est ailleurs. Il voit une œuvre, il voit... il est déjà là. Assis-toi. Le Seigneur va multiplier le pain. Alléluia. Ces jours-là, si quelqu'un refusait de s'asseoir, je ne crois pas qu'il pouvait recevoir la bénédiction. Et tout le monde avait tellement faim que dès qu'on leur a dit, asseyez-vous, pas rangé des 50, des 100, tout le monde s'est assis pour attendre maintenant que le Seigneur rende grâce. Alléluia. C'est l'état de quelqu'un. Vous voyez, là, ça veut dire quoi? C'est l'obéissance. Obéis. Vous voyez, le mot être assis prend toutes ces dimensions-là. Ça inclut la puissance, ça inclut la constance. Ça inclut la conscience, ça inclut l'obéissance. Marie, assise aux pieds de Jésus, dans Luc. La sœur Marthe qui dit, Seigneur, s'il te plaît, pourquoi est-ce que ma sœur ne vient pas m'aider à préparer le repas? Est-ce que Marthe avait mal agi? Vous savez, Jésus débarquait chez les Marques, hein? chez les Lazare, les Marie et Marthe, parfois avec tous ses disciples à n'importe quel moment, débarque, pouf. Il n'y avait pas encore de GSM à cette époque-là. Pour avertir qu'ils débarquent, ils arrivent. Et c'est donc tout à fait normal que là, on dise, ah non, on doit préparer à manger. Marthe s'agite, vous voyez, hein, elle était debout, n'est-ce pas? Agitée, tout. Seigneur, mais Seigneur, et comme elle était directe, comme ça, il dit, Seigneur, pourquoi est-ce que toi, tu ne peux pas parler à ma sœur? Alléluia. Est-ce qu'elle-même ne pouvait pas parler à sa sœur? Sa sœur, parce qu'elle savait que sa sœur ne va pas l'écouter, donc il faut quelqu'un qui a plus d'autorité morale sur sa sœur. Seigneur, parle à ma sœur pour qu'elle vienne m'aider. Il dit, non, elle a choisi la bonne part, assise au pied du Seigneur, en train d'écouter la parole. Assis, c'est s'asseoir aussi pour la connaissance. Recevoir l'instruction. Je parle à quelqu'un. Dieu veut que tu sois assis dans la puissance du Saint-Esprit, dans la constance, la patience, l'obéissance et la foi, et la connaissance de la parole. Et je termine par le fait que ça soit, quand vous avez été partout vous promener, quand vous arrivez chez vous à la maison, dites-moi, vous entrez chez vous, vous enlevez votre costume ou votre manteau, et puis vous restez debout, vous prenez la télécommande. Debout, n'est-ce pas? Debout. Ou même pour manger, vous mangez debout. Il y a un moment, d'ailleurs, la première des choses quand vous arrivez à la maison, c'est quoi? C'est vous de vous asseoir. Pour prendre un peu de repos. Dieu veut que tu prennes aussi du repos. C'est pourquoi il parle du repos de Dieu. Vous savez, il y a des gens, excusez-moi de vous le dire, travailler, c'est une valeur biblique. Il faut travailler parce que Dieu n'est pas avec les paresseux. Dieu nous exhorte à travailler. L'homme vivra la sueur de son front. Que celui qui travaille mange, que celui qui ne travaille pas ne mange pas non plus, dit la parole de Dieu. Il y a des gens qui travaillent pour amasser et pour amasser et pour amasser et pour amasser au point qu'ils n'ont même plus le temps de se reposer. Le temps à consacrer à leurs épouses, à leurs enfants, à leur famille. Le temps de consacrer à Dieu dans la prière. Ah, c'est ma carrière. Ah, c'est mon travail. Oui! Dieu veut que aussi tu aies le temps de jouer avec ton fils. Quelqu'un peut dire amen?